Points cardinaux, épisode 3. Et si l'on arrêtait de ne mesurer la réussite d'une start-up qu'en fonction de sa valorisation ou du montant de sa dernière levée de fonds? Alors que la crise sanitaire a mis à mal la résilience des start-up, BCG et La Boussole proposent, au travers d'une étude approfondie, une nouvelle vision des critères permettant de mesurer le succès d'une start-up. Ils invitent à prendre en considération 4 points cardinaux: l'impact économique, l'impact sociétal, l'innovation et la gouvernance responsable. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le sujet de l'innovation avec Alexandre Chervet, DG France de Inco.org, Augustin Jacquelin, cofondateur et président de Lemon Tree, et Julie Quetrine, chef de projet au BCG. Bonjour Julie, pourquoi intégrer l'innovation dans la mesure du succès d'une start-up? À travers quels critères proposez-vous de la mesurer?
Très bonne question. En fait, on a regardé l'innovation pour plusieurs raisons. C'est ressorti comme étant la dimension la plus importante qui caractérise une start-up à succès. Et pour ce faire, on a interrogé plus d'une centaine de start-up et on leur a demandé de classifier les 4 différents critères par ordre d'importance. Et le critère numéro 1, c'est vraiment l'innovation. À ce stade, en fait, il y a 3 types d'innovation qui sont retenus pour mesurer ce point cardinal. Un premier qui est autour de l'innovation dans l'usage. Donc, est-ce que c'est un nouveau produit ou service proposé par la start-up. Un deuxième type d'innovation qui va être autour de l'innovation dans l'accès au marché, par exemple via une distribution digitale. Et enfin, un caractère d'innovation autour du modèle économique ou par exemple dans la manière de le monétiser. Et de ce fait, je suis assez curieuse plus largement, Alexandre, de savoir comment est-ce que tu accompagnes les start-up, notamment pour mesurer cette innovation.
Pour commencer, Julie, j'aimerais te redonner peut-être un petit peu notre définition de ce qu'est l'innovation pour nous chez Inco. Innover pour nous, c'est vraiment changer de paradigme. C'est adopter un nouveau regard sur l'existant et essayer de proposer une amélioration, parfois en changeant de position ou bien en répliquant ce qui existe ailleurs. Refaire ce qui existe bien ailleurs, c'est une innovation pour nous. Ce qui est important, c'est qu'on place au cœur les questions d'impact social et environnemental de notre dynamique d'innovation. Et je sais que c'est aussi un autre point cardinal de l'étude, donc c'est important qu'on partage cet élément-là. Chez Inco, on accompagne des innovations en lançant des programmes thématiques, à la fois sur, par exemple, la santé, la beauté, la ruralité. Et on va s'intéresser aux innovations produits. Donc, je peux vous donner un exemple. On peut parler de Damae Medical, qui est une start-up qui a inventé un nouveau dispositif de dépistage des cancers de la peau de manière instantanée et non invasive. Donc là, on est vraiment sur une innovation technique, technologique, assez classique quand on pense à l'innovation. Mais on peut aussi penser à des innovations, comme tu le disais, Julie, avant, de modèle économique. Donc, je pense là, par exemple, à Jean Bouteille, qui fait de la vente de liquide en vrac et de manière consignée. Et ça, c'est aussi un nouveau modèle d'innovation de par le modèle économique. Comment on les accompagne? C'était la question. Il y a 3 phases distinctes qui sont importantes. D'abord, ce qu'on appelle une phase créative, où on va essayer de réfléchir à des problèmes et des besoins existants en s'appuyant sur des méthodologies classiques de l'entrepreneuriat comme le design thinking. Ensuite, une phase plus de prototypage, où on va essayer de mettre en place assez rapidement une démarche qui va permettre aux entrepreneurs de confronter leur innovation à la réalité du terrain. Et enfin, une phase de test et d'expérimentation, où là, on travaille notamment avec des partenaires, des entreprises, des grands groupes, qui permet à des entrepreneurs de venir tester auprès de ces partenaires-là leurs solutions de manière assez rapide. Et peut-être un dernier élément, c'est sur les questions qu'on pose à nos entrepreneurs. Donc, les premières questions qu'on a envie de leur poser, c'est comment vous pouvez tester votre solution, votre produit ou votre service innovant de manière rapide? Comment la solution technologique qu'il y a derrière, vous pouvez aller la tester? Ensuite, le deuxième élément, c'est quelles innovations vous pouvez pousser sur votre stratégie d'accès au marché? On revient à ce que tu disais, Julie, avant. Et puis enfin, comment vous pouvez innover grâce à votre modèle économique et comment vous pouvez penser de manière différente la manière de rémunérer ou de vous faire payer pour votre service ou votre produit.
Augustin, comment vous positionnez-vous sur ce sujet chez Lemon Tree? Quels sont par exemple les critères ou les KPIs que vous avez identifiés?
Alors, Lemon Tree, je rappelle que c'est un service innovant pour améliorer la collecte et le recyclage des déchets. Donc, l'innovation, nous, elle est vraiment au cœur de notre modèle. On la retrouve à différents endroits dans notre activité. Il y a évidemment de l'innovation technique, l'innovation produit dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on installe des automates intelligents qui sont des concentrés de technologie, qui reconnaissent les éléments, les trient, les compactent, qui récupèrent les données, qui les analysent. Donc là, cette innovation produit, c'est un peu un fil conducteur de notre activité. On retrouve aussi la partie innovation d'usage et tel que le disait aussi Alexandre tout à l'heure, nous on essaye là d'apporter des nouvelles solutions à travers donner une valeur aux déchets, faire un système de consignes, changer la perception, faire en sorte que les gens finalement se rendre directement dans des lieux de collecte. Donc tout ça, ce sont des innovations d'usage et on est aussi sur l'innovation sociale. Et je pense que c'est ressorti dans cette étude. Je pense notamment à la joint venture sociale qu'on a créée quelques années après le lancement de Lemon Tree, en mettant autour de la table différents acteurs, une grande entreprise, Danone, à travers son fonds Danone Écosystème, une fondation, qui est la fondation Agir contre l'exclusion, pour apporter une expertise sur un domaine qu'on ne connaissait pas, et puis nous, sur la partie métier et ce côté start-up développement. Donc le fait aussi là de typiquement créer une structure avec un format inédit, c'est ce genre d'innovation qu'on pousse et qu'on suit. Pour le coup, le sujet des KPI, et ben dans toute bonne start-up qui se respecte, évidemment, hein, on regarde des KPI économiques, puisqu'il faut que ces innovations elles transforment l'essai, qu'on ait des clients, qu'on ait des utilisateurs. Donc, je passe sur nos machines, c'est des dizaines de millions de gestes de tri qui sont réalisés chaque année. Donc, on considère, voilà, ça, c'est coché. Il y a un intérêt d'un point de vue utilisateur. Et puis, évidemment, la partie impact environnemental. On est sur un sujet où on essaie de sauver des tonnes de déchets de l'incinération ou de l'enfouissement. Donc, voilà, chaque tonne, c'est une tonne suivie et ça nous rapproche de notre mission. Et puis, évidemment, des KPI sociaux, sociétaux, puisque notre mission, elle est aussi de lutter contre l'exclusion en offrant des jobs à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc, c'est le nombre d'emplois créés, c'est voilà, l'impact aussi, l'impact humain qu'on a sur un territoire.
Oui, si je peux rebondir sur quelque chose que disait Augustin et qu'on n'a pas évoqué jusque-là, c'est la dynamique de co-création, de faire avec d'autres acteurs, qui est aussi une dynamique d'innovation et qui vient un peu bousculer les manières de faire. Quand on a des startups comme Lemon Tree qui collaborent avec des acteurs en place comme Danone, des grandes entreprises, on vient bousculer un peu la démarche de l'innovation. Et ça, c'est un élément assez intéressant pour des jeunes entrepreneurs, pour des startups en phase de lancement.
Et alors, comment sensibiliser l'écosystème à ces problématiques et plus largement à la vision holistique du succès que propose le rapport ?
Moi, je dirais que déjà aujourd'hui, les entrepreneurs, ça vient d'eux. Il y a déjà une sensibilisation assez forte, de plus en plus, du fait que, réussir quand on est entrepreneur, c'est pas que lever X millions d'euros. Il y a d'autres critères de motivation qui sont de plus en plus présents chez les entrepreneurs. Et nous, on le voit bien puisque c'est notre métier d'accompagner des entrepreneurs à impact. Et je dirais aussi que c'est le rôle d'initiatives comme le réseau d'accompagnement La Boussole d'aider ces entrepreneurs à définir ce que sont les indicateurs de réussite qui vont au-delà des indicateurs financiers. Et donc, c'est ce que fait le rapport en essayant de présenter d'autres indicateurs. Et après, c'est à nous, en tant qu'accompagnateurs, de faire le travail pour opérationnaliser tout ça et pour permettre aux entrepreneurs de connaître ces indicateurs-là et de les suivre et d'avoir les outils pour les suivre dans la durée. Et puis, la dernière chose, et je pense que Augustin en est un bon exemple, c'est essayer d'évangéliser grâce à des rôles modèles, grâce à des entrepreneurs qui s'engagent pas que pour la levée de fonds que va faire leur projet, mais pour l'impact que va avoir leur projet. C'est en racontant ces histoires-là et en montrant ces rôles modèles-là qu'on va réussir à faire en sorte que la réussite entrepreneuriale, elle soit bien plus large et que cette démarche holistique soit prise en compte.
Moi, je suis tout à fait en phase là, avec ce qui vient d'être dit. La première chose, c'est de communiquer. On explique au maximum déjà ce qui nous motive, nous, en tant qu'entrepreneurs. Qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin? Et dans notre communication, et c'est même en nous, de façon tout à fait sincère, on ne cherche pas la plus grosse culbute financière possible, aller forcément conquérir le monde. Moi, j'aime bien aussi le sujet qui est abordé par B Corp, les Benefit Corporation. Comment on peut être les meilleurs pour le monde et pas les meilleurs au monde? Et je trouve que ça, c'est déjà un changement d'état d'esprit qui est assez intéressant. Non seulement c'est bien de communiquer dessus, mais c'est bien en plus de prouver. Et c'est là où il y a tout un tas de labellisations qui permettent ça, permettent de se benchmarker à un niveau même international sur ces impacts social, environnemental, en termes de gouvernance, de prise en compte des parties prenantes. Donc voilà, nous c'est déjà ce qui nous a motivés à la base et on essaye de le faire savoir à un maximum de personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, ça touche. On voit les profils qui nous rejoignent dans nos équipes. C'est pas des gens qui viennent pour l'argent. Ils viennent justement pour aller chercher ce supplément d'âme, cet impact, cette motivation pour bosser aussi un peu avec ses tripes.
Merci à Alexandre Chervet, Augustin Jacquelin et Julie Catherine pour ce décryptage. Inscrivez-vous au podcast pour découvrir chaque point cardinal plus en détail.